Peut-être quelques mots d'introduction pour le frère Thierry Dominicain Brèche, qui nous arrive donc de la province de Toulouse, attaché au couvent de Bordeaux, enseignant à l'Institut catholique de Paris et à l'Institut catholique de Toulouse, où il a fondé cette année, je crois, ce printemps, une chaire Saint Thomas d'Aquin. Vous publiez régulièrement dans la revue Thomiste. Vous avez également publié de nombreux volumes chez Vrin. Je n'ai pas tous les titres en mémoire, mais nous connaissons quelques-uns de vos travaux. Vous avez également réédité un certain nombre de textes d'Étienne Gilson. Et donc, nous sommes très heureux de vous entendre en ce jour.
Merci, Florian. L'exposé qui va suivre est tiré des œuvres classiques d'Étienne Gilson. Et il me plaît de me souvenir de notre voyage commun, Florian et moi, il y a 3 ans, à Toronto, grâce à la libéralité de Madame Arnaud, qui est ici présente, et des éditions Vrin, dans les archives d'Étienne Gilson. Nous sommes revenus, chacun de nous, avec 5 kilos de photocopies, pas les mêmes kilos d'ailleurs, si bien qu'à l'aéroport, ça avait failli poser un problème de poids, mais donc avec tous les inédits, notamment du dernier Gilson, finalement. Mais si ce sont des textes tous intéressants, je ne pense pas qu'ils aient considérablement renouvelé ce dont je vais vous parler. Donc le reste est tiré de choses connues, y compris de la correspondance. Donc philosophie et théologie, entre frontières et intégration, Gilson est le problème du révélable. Le problème du révélable est pour Gilson une suite naturelle de celui de la philosophie chrétienne. Nous avons entendu M. Imbard il y a un instant. C'est du moins ce que nous aurions dû entendre. Donc vous inverserez les données, ça n'est pas grave. Et ce problème du révélable incarne, d'une autre façon, l'articulation de la philosophie et de la théologie, ou, pour mieux dire, l'inclusion du domaine de la raison dans le domaine de la foi, ou bien au contraire, la question de leur distinction aux confins de la séparation. Ça n'est d'ailleurs peut-être pas tout à fait la même chose que de parler d'un côté du binôme philosophie et théologie et de l'autre côté du binôme raison et foi. La difficulté est double. Primo, la superposition des deux modèles semble laisser la trace d'un effet de bouger. Secundo, la mise en rapport des termes oscille entre frontières et intégration. Ce n'est un secret pour personne que le Gilson des années 1930 et suivantes, et jusqu'à la fin de son activité, a plaidé pour une intégration de la raison dans la foi, plutôt que pour une sorte de partenariat, certes harmonieux, mais extrinsèque. Par la suite, la philosophie médiévale a plutôt pris des options différentes de Paul Vigneault à nombre d'auteurs contemporains. Curieusement, la distance plus marquée de la philosophie en regard de la théologie, au profit de la première, semble rejoindre quelque chose du premier Gilson, le jeune médiéviste des années 1920, lorsque celui-ci s'attache à prouver contre la tradition de la Sorbonne, celle de Victor Cousin, que les doctrines médiévales méritent le nom de philosophie et pas seulement de théologie. D'où les titres de ses grands livres de ces années-là, la philosophie de Saint-Bonaventure, 1924, la philosophie de Saint-Augustin, 1928, et bien sûr, le système philosophique de saint Thomas d'Aquin de 1919 à 1927, jusqu'à la troisième édition, le titre porte le nom de système. Victor Cousin, en 1828, dans son cours, avait dit « La philosophie qui avait précédé Descartes était de la théologie ». Gilson a essayé de prouver que c'était bien de la philosophie. Quoi qu'il en soit, Gilson, en 1942 maintenant, introduit dans sa quatrième édition du thomisme, un concept à ce point mis en avant qu'il se trouve chapeauter la refonte du premier chapitre de l'œuvre, le révélable. C'est ce concept qu'il faut ici, après bien d'autres, examiner. 3 questions. Première question, de la philosophie chrétienne à l'idée de révélable. Deuxième, les attendus du révélable dans les œuvres de Gilson. Et 3e question, la philosophie entre intégration et séparation. Donc, premièrement, de la philosophie chrétienne à l'idée de révélable. En 1932, Gilson publie « L'esprit de la philosophie médiévale ». La seconde édition de 1944 reproduit le texte à l'identique. Gilson le dit, mais je préférais vérifier. Or, ni dans la première, ni donc dans la seconde édition, le terme de révélable n'apparaît. Les deux premiers chapitres emblématiques de l'œuvre sur la philosophie chrétienne, son problème et sa notion n'en portent pas la trace, dont acte. Il n'empêche que le problème futur du révélable peut désormais s'appuyer, comme par anticipation, sur des positions comme celle-ci. Citation. C'est un fait qu'entre les philosophes grecs et nous, il y a eu la révélation chrétienne et qu'elle a profondément modifié les conditions dans lesquelles la raison s'exerce. Ou encore, il y a au moins un plan où la philosophie chrétienne n'est pas impossible, c'est celui des conditions de fait dans lesquelles la raison du chrétien s'exerce. Il n'y a pas de raison chrétienne, mais il peut y avoir un exercice chrétien de la raison. Un exercice chrétien de la raison. Puis, un peu plus loin encore, ce que se demande simplement le philosophe chrétien, c'est si, parmi les propositions qu'il croit vraies, il n'en est pas un certain nombre que sa raison pourrait savoir vraies. Enfin, une philosophie ouverte au surnaturel serait assurément une philosophie compatible avec le christianisme, ce ne serait pas nécessairement une philosophie chrétienne. Pour qu'une philosophie mérite vraiment ce titre, il faut que le surnaturel descende à titre d'élément constitutif, non dans sa texture, ce qui serait contradictoire, mais dans l'œuvre de sa constitution. J'appelle donc philosophie chrétienne, c'est la définition bien connue, qui est en italique dans le texte, toute philosophie qui, bien que distinguant formellement les deux ordres, considère la révélation chrétienne comme un auxiliaire indispensable de la raison. Résumons. La philosophie est dite chrétienne qui bénéficie de l'influence de la foi, de fait, mais non de droit. C'est un état et non une essence. C'est la philosophie dans son état chrétien, comme l'écrit Gilson à Maritain, adoptant ainsi la formule de ce dernier. C'est un état et non une essence. Voilà quel va être le territoire du révélable. En 1922, déjà, dans la deuxième édition du Thomisme, et il le reprend dans la troisième en 1927, Gilson écrivait « La foi domine la raison, non pas en tant que mode de connaître, car elle est au contraire une connaissance de type inférieur, à cause de son obscurité, mais en tant qu'elle met la pensée humaine en possession d'un objet qu'elle serait naturellement incapable de saisir. Il peut donc résulter de la foi toute une série d'influences et actions dont les conséquences, à l'intérieur de la raison même, et sans qu'elle cesse pour autant d'être une pure raison, peuvent être des plus importantes. La foi dans la révélation n'aura pas pour résultat de détruire la rationalité de notre connaissance, mais de lui permettre, au contraire, de se développer plus complètement. De même, en effet, que la grâce ne détruit pas la nature, mais la féconde, l'exalte et la parfait, de même, la foi, par l'influence qu'elle exerce de haut sur la raison en tant que telle, permet le développement d'une activité rationnelle d'un ordre plus fécond. En 1942, dans la quatrième édition du Thomisme, c'est toute l'introduction de l'ouvrage qui, d'un coup, s'intitule « Le révélable ». Cette disposition est conservée dans la cinquième édition. En revanche, elle semble refluer quelque peu dans la sixième et définitive en 1965. En effet, l'introduction actuelle s'intitule désormais « Nature de la philosophie thomiste » en deux sections, premièrement le cadre doctrinal, deuxièmement le philosophe et le croyant. En 1942, dans la nouvelle rédaction qui opère une étape, sinon une rupture sur ce point, Gilson prépare sa transition. Si donc nous voulons chercher dans la complexe personnalité de saint Thomas un docteur de la vérité philosophique, c'est seulement à l'intérieur du théologien que nous pouvons espérer le découvrir. Apparaît aussi le thème de l'intégration. Si l'on tient aux parties de la philosophie où saint Thomas se montre le plus original, on constate qu'elles sont en général limitrophes du territoire propre de la théologie. Limitrophes n'est pas assez dire, elles y font plutôt figure d'enclave. Et enfin, la notion arrive, Thomas d'Aquin avait, citation, « une claire conscience de la situation définie qu'occupe la philosophie dans l'œuvre d'un docteur chrétien. Cette situation, il l'a nommée d'un nom qui désigne proprement l'état de la connaissance philosophique intégrée à la synthèse théologique. Il l'a nommée le révélabilé. » Le thomisme, donc, quatrième édition. Plus précisément, ajoute Gilson, toujours dans cette édition, ce savoir humain, assumé par la théologie en vue de ses fins propres, c'est précisément ce que saint Thomas nomme le révélable, expression dont on a proposé bien des interprétations différentes, faute peut-être d'avoir exactement saisi le sens du problème dont elle a porté la solution. Trois remarques peuvent être suggérées sur cet extrait. Première remarque, elle mentionne l'utilisation du savoir humain en vue des fins propres de la théologie. Le motif, ajoute Gilson, en est la perspective du salut. Ce révélable est donc du philosophique, dit-il, entraîné pour ainsi dire dans l'orbite de la théologie, parce que, comme celle du révélé, la connaissance en est nécessaire au salut. Gilson se résume en une formule conservée dans la sixième édition, ce qui n'est pas le cas de toutes les autres, citation encore, « est révélable toute connaissance naturelle assumée par la science sacrée en vue de sa propre fin. » Est révélable toute connaissance naturelle assumée par la science sacrée en vue de sa propre fin. Une deuxième remarque signale les interprétations différentes signalées par Gilson à propos de la signification de révélable. Il en fournit lui-même un dossier au moment de proposer la sienne, en notes, en plusieurs notes. Il y a 25 ans, en 92, je crois, ici même, lors d'un premier colloque Gilson, le père Henri Donneau donnait une communication sur le même sujet. Il procédait à une étude précise de toutes ces sources exploitées par Gilson et à leur influence sur Gilson, parfois malgré lui. La troisième remarque touche à l'ajout de Gilson dans le passage que je viens de lire. C'est précisément ce que saint Thomas nomme le révélable. Quatrième édition. Dans la sixième édition, il la corrige un peu en disant « C'est précisément ce que saint Thomas a au moins une fois nommé le révélable. » Comme on le sait, l'unique texte, en effet il n'y en a qu'un, est celui du passage de la Somme de théologie, première question, article 3, en deux endroits, le corpus et la réponse à la troisième objection. Excusez-moi, j'avais donné un texte en exemplier, est-ce qu'il a été tiré? Vous l'avez? Ah ben, c'est parfait. Alors, commençons par en prendre connaissance. Il est très connu, mais bon. Dans cet article, Thomas demande si la doctrine sacrée est une science unique, et il semble qu'elle soit multiple, bien sûr. Elle s'occupe en effet de beaucoup de choses, de trop peut-être, les anges, les créatures corporelles, les mœurs humaines, toutes choses qui appartiennent à diverses sciences philosophiques, dit l'objectant numéro 2. La réponse de Thomas consiste à unifier toutes ces choses sous une seule raison formelle. L'expression raison formelle, d'ailleurs, n'est pas si fréquente chez Thomas, rationé formali, et la voici. Puisque l'écriture sacrée envisage certaines réalités selon qu'elles sont révélées par Dieu, ainsi qu'on vient de le voir, toutes les choses, réalités, omnia, qui sont divinement révélables, s'unifient dans l'unique raison formelle de l'objet de cette science. C'est pourquoi elles sont comprises dans la doctrine sacrée comme dans une science unique. Second passage, la réponse à la deuxième objection, que je réduis pour le moment à la reprise de cet argument. J'y reviendrai par la suite. Quant aux réalités traitées dans les diverses sciences philosophiques, la doctrine sacrée, laquelle est unique, peut les considérer sous une unique raison, à savoir en tant qu'elles sont divinement révélables. Donc, deuxième emploi de révélabilia. De ce fait, la doctrine sacrée est comme une certaine impression de la science divine, laquelle est une et simple à l'égard de toute chose. Il s'agit donc de différentes matières, mais vraiment au sens d'objet d'étude, qu'étudient les sciences philosophiques et qui se trouvent reprises et unifiées par la doctrine sacrée pour son propre compte dans l'unité de son objet formel. On note au passage que chez Thomas, il s'agit d'un pluriel, les révélabilia, et non point du terme singulier devenu plus abstrait chez Gilson, le révélable. C'est donc sur cette page que Gilson s'appuie désormais. Et il semble qu'il ait pris la mesure de sa découverte, d'abord dans l'enthousiasme d'une idée qui devient fédératrice chez lui, qui allait dans le sens de ses propres recherches, donc la suite de la philosophie chrétienne, puis, peut-être par la suite, davantage dans les proportions de l'œuvre thomasienne, d'où un certain estompage des titres et de l'emploi qu'il en fait. Voilà pour le fait. Essayons à présent de mieux saisir ce que Gilson entend par révélable, d'où mon deuxième point, les attendus du révélable dans les œuvres de Gilson. Le 4 février 1942, dans une lettre envoyée du Sauchoir, le père Marie-Dominique Chenu écrit à Gilson pour le remercier de l'envoi du tomisme dans sa quatrième édition. Outre quelques compliments brefs mais chaleureux, il conclut, le père Chenu, « Nous en reparlerons, et aussi du révélable, qui me chiffonne un peu le mot, dis-je, non le contenu. » La réponse de Gilson tient dans la fameuse lettre, fameuse, conclue par cette phrase qui serait presque amusante si elle ne rappelait la situation tragique où les protagonistes sont placés, la guerre, l'occupation, les restrictions. C'est Gilson qui parle « J'ai froid, j'ai faim et je n'ai plus de tabac. » Gilson donc répond au père Chenu « Sentez-vous aussi à l'aise que je me sens moi-même pour me discuter ? Le révélabilé est en effet un agent provocateur. Pourtant, je n'ai pas couru après. C'est absolument l'unique formule authentiquement thomiste que j'ai jamais rencontrée pour désigner... » Alors attention, c'est plusieurs mots en un seul, car il y a des traits d'union entre tous, entre chacun, pour désigner le philosophique en tant qu'intégré dans une théologie. Le philosophique en tant qu'intégré dans une théologie, il y a des traits d'union entre tous les mots. Retenez cela, parce qu'il y aura une autre formule un peu plus loin, de ce genre. Je crois qu'il faut étudier cette philosophie d'abord sous cet aspect, si l'on veut ensuite en tenter la reconstruction libre, sous une forme libérée de ses sources historiques. Donc d'abord l'intégration, ensuite la reconstruction. Je pense même que c'est parce qu'on a trop négligé de rechercher la source elle-même que les bouteilles où l'on débite sous son nom des eaux variées sont si souvent remplies d'une eau contaminée. Le philosophique en tant qu'intégré dans une théologie, donc, semble résumer la nature et le territoire du révélable. L'intégration doit précéder la reconstruction et non point l'extraction. À quoi il faut ajouter une caractéristique importante selon Gilson. Le révélable concerne tout ce qui peut être révélé, qu'il l'ait été ou bien non. Il ne s'agit pas, dit Gilson, de dresser la liste des vérités révélables. Pas de liste. Citation, dans la théologie thomiste, il y a du révélable qui a été révélé, bien qu'en droit, il eût pu ne pas l'être. Et du révélable qui, bien qu'en fait, il eût pu l'être, n'a pas été révélé. Il ne s'agit pas non plus, selon Gilson, d'assimiler le révélable à la philosophie. Nul ne songe à soutenir que saint Thomas ait identifié les deux notions de révélable et de philosophie. Il n'empêche que la philosophie est, dit-il, comme glorifiée par son assomption théologique, car reliée à la science que Dieu a de lui-même. C'est à ce titre que la philosophie mérite éminemment l'intérêt du docteur chrétien. Ce sont les termes mêmes de Gilson à chaque fois. J'essaie de ne pas interpréter. Alors plus tard, en 1953, Gilson va signer un de ses articles intitulé « Notes sur le révélabilé selon Cajetan ». Le père Donneau, donc, ici même, avait fait ressortir quelques évolutions, ou même flottements, pour ne pas dire contradictions, dans l'interprétation gilsonienne du texte thomasien. Alors peut-être a-t-il un peu rendu plus anguleuses qu'au naturel. Il est vrai qu'il y a des flottements. Je vais résumer cette partie en vous en donnant quelques éléments. Ce sera dans ma version longue et vous pourrez vous référer de toute façon à l'article du père Donneau. L'un des points saillants de cette étude est le bouleversement que Cajetan fait subir à saint Thomas. Cajetan distingue, selon Gilson, les réalités qui sont démontrables et celles qui sont révélables, les démonstrabilia et les révélabilia. Ce faisant, Cajetan déplace par sa distinction l'axe de la doctrine qu'il commente, il divise du point de vue de la cause formelle ce que Thomas d'Aquin s'efforce précisément d'unir du point de vue de la cause finale. Ce faisant, il contribue au dégagement d'une théologie naturelle d'un nouveau genre, naturelle parce qu'elle fait partie intégrante de la métaphysique comme celle des païens, mais spontanément d'accord avec la foi chrétienne comme celle des théologiens chrétiens. Or, même ce que Cajetan nommera des réalités démontrables, donc des démonstrabilia, est inclus par saint Thomas dans les révélabilia. démontrable ou non, tout ce que Dieu a révélé est du révélable. C'est pourquoi Gilson parle de manipulation. Là où le Père Deneau n'a peut-être pas tort, c'est que Gilson voit dans le commentaire de Gilson ce découpage selon Cajetan. Or, de fait, Gilson n'en parle pas. La distinction entre les deux sections, des révélables et des démontrables, n'est pas utilisée par Cajetan à cet endroit. Là, Gilson force un peu, semble-t-il, son interprétation. Quoi qu'il en soit, on peut admettre qu'il se soit laissé quelque peu emporté, disons, par son anti-cajetanisme bien connu. Retenons-en toutefois un point. Il concerne le texte même de Thomas dans la suite du passage de la Somme, celui que vous avez, que j'avais gardé jusqu'ici, et l'interprétation qu'en donne Gilson. Thomas entend illustrer le rôle d'unification formelle de la doctrine sacrée par une comparaison avec le sens interne nommé le sens commun. Faculté de synthèse, faculté perceptive globale des sensations reçues des cinq sens. Et il dit la chose suivante, Thomas, « L'objet du sens commun est le sensible qui embrasse le visible et l'audible. C'est pourquoi le sens commun, bien qu'il soit une seule puissance, s'étend-il à tous les objets des cinq sens. De même, la doctrine sacrée, laquelle est unique, peut considérer sous une seule raison, c'est-à-dire en tant qu'elles sont révélables, les réalités qui sont traitées dans les diverses sciences philosophiques. D'un côté, les diverses sciences philosophiques et de l'autre, la doctrine sacrée, peuvent donc s'enquérir des mêmes réalités, sous deux aspects ou même à deux moments différents. Ce qui est envisagé par les sciences philosophiques l'est aussi à un titre nouveau par la doctrine sacrée, sous une raison formelle unifiante, à l'imitation de la science divine. Or, pour cette comparaison, Gilson introduit une certaine ambiguïté. Il fait glisser, consciemment et inconsciemment, ce dont il s'agit, des réalités elles-mêmes, envisagées sous deux lumières, aux sciences philosophiques. Dans l'une des traductions qu'il propose de ce texte, Gilson, il ne parle plus tellement des choses qui sont envisagées que les sciences elles-mêmes. Par exemple, c'est dans le tomisme 4e édition, « La théologie ne regarde les sciences philosophiques et naturelles qu'en tant qu'elles sont visibles du point de vue qui est le sien. Ce point de vue, c'est celui de la foi en la révélation qui sauve. » Donc, d'une certaine manière, la doctrine sacrée absorbe la science philosophique et pas seulement les mêmes objets envisagés autrement. Là, il y a peut-être une petite majoration du texte de Thomas, d'autant plus que dans le thomisme, dans sa 6e édition et actuelle, lorsque Gilson retraduit à nouveau le texte même de Thomas, il redevient plus proche du texte et plus modeste dans ses applications. Ce sont désormais à nouveau les matières traitées dans les sciences philosophiques ou les connaissances, il y a deux traductions différentes d'ailleurs, ou les connaissances traitées dans les matières philosophiques et non plus les sciences elles-mêmes, ce qui est un peu trop malgré tout. Nous mettrons cette amplification temporaire au compte de la défense et illustration par Gilson de sa conception. Alors maintenant, je voudrais prendre un peu de champ et essayer de demander ce que requiert ou ce qu'implique l'idée gilsonienne de révélable. D'où ma troisième partie, la philosophie entre intégration et séparation. On le sait, il est difficile de ranger Étienne Gilson du côté de la sécularisation de la philosophie, fut-elle médiévale. Il s'est battu, au contraire, pour la primauté de la théologie, non seulement en soi, comme sagesse architectonique, mais aussi, et de ce fait, pour sauver la métaphysique elle-même. C'est sa thèse. Pour établir la métaphysique, il faut sauver la théologie. Septembre 1950 marque le double épisode des deux congrès romains, scotistes puis thomistes, avec quelques échauffourées restées célèbres. Et les boîtes de photos de Toronto nous montrent au congrès scotiste, une salle plus grande que celle-ci, il n'y a que des franciscains. Au premier rang, il y a Gilson et le père Garrigou Lagrange, l'un à côté de l'autre comme deux enfants sages, deux ou trois jours après, maintenant j'ai la chronologie, ils allaient s'écharper de la manière violente que l'on sait. C'est très mignon. J'ai la photo toujours sur moi, tellement ça m'amuse. Le 12 août, un mois auparavant, Gilson écrit au père Labourdette, « Tant qu'on enseignera une philosophia ad mentem Thomae Aquinatis ou ad mentem Scoti, avant la théologie, donc tant qu'on enseignera la philosophie avant la théologie, et avant est en majuscule, on truquera la partie. Ma conclusion, et je pense l'aller dire à Rome, c'est retour à la théologie. Bien entendu, je viens de découvrir la Lune, mais on va sûrement m'accuser de fidéisme, pour peu que j'insiste, cela ne fera qu'une étiquette de plus. Et sa communication romaine, devenue l'article « Les recherches historico-critiques et l'avenir de la scolastique », reprend l'expression, il devait vraiment être en train de l'écrire, pour rendre la scolastique à elle-même, écoutons le conseil de l'histoire, retour à la théologie, qu'on veuille bien nous faire la grâce de croire que la distinction de la foi et de la raison n'est pas en cause, nous n'oublions pas non plus que la distinction formelle d'objets chère aux dialecticiens existe entre la théologie et la philosophie. Ni l'une ni l'autre ne sont en péril, mais une distinction formelle d'objets n'est pas une séparation réelle d'exercice. C'est en restituant les philosophies scolastiques à leur lieu naturel que l'histoire les comprendra de mieux en mieux telles qu'elles furent. Alors, quelles sont les caractéristiques de ce retour à la théologie qui coiffe le révélable ? En voici quelques éléments. Premièrement, il faut se souvenir du débat de Gilson contre les néoscolastiques de Louvain dans les années 1930, d'où est issu notamment son réalisme méthodique 1935. Ce débat, originellement axé sur le refus gilsonien de mélanger Thomas et Kant, que cette école pratiquait, a évolué par la suite vers la question dite de la philosophie séparée, incarnée de ce fait par le médiéviste Fernand von Steinbergen, dont M. Libera a parlé tout à l'heure. La philosophie séparée pourrait être caractérisée ainsi, selon Gilson lui-même, c'est seulement, dit-il, à partir du XVIe siècle, que le développement propre des études philosophiques exigées des futurs théologiens conduisit à diviser les études religieuses en deux parties, la philosophie scolastique et la théologie scolastique. À ce moment, ce qu'il y avait eu de philosophie incluse dans les théologies scolastiques ou explicitement élaborée en vue de ces théologies et pour leur usage se constitua en corps de doctrine distinct. Ce qu'avaient déjà fait les avéroïstes du XIIIe siècle et leurs successeurs, mais leur intention était de séparer les deux disciplines, non pas simplement de les distinguer. Les scolastiques du XVIe siècle et jusqu'à ceux de nos jours ont fait une sorte de rêve, constitué comme préambule à la théologie une philosophie qui ne devrait rien à celle-ci, sauf une sorte de contrôle extérieur et qui pourtant s'accorderait parfaitement avec elle. Deuxième point, contre un tel accord final de la philosophie et la théologie, mais à ce point final qu'il est préfabriqué, se dresse alors, selon Gilson aussi, le métaphysicien rebelle, avant même Paul Vigneault. Gilson dit, ici, une fois de plus, le philosophe se rebelle. Il voudrait se faire démontrer tout ce que le théologien lui affirme. Et comme ce philosophe est en chacun de nous, on ne l'apaise pas sans effort. Il ne s'agit d'ailleurs pas de se débarrasser de lui, mais de faire justice à ce qu'il y a de légitime en sa demande. Troisièmement, il n'empêche que pour Gilson, le parallélisme entre philosophie et théologie, ainsi séparé en apparence, crée in fine un faux effet de surprise dans leur accord retrouvé. Mais plus gravement, dit Gilson, cet accord tardif tue la métaphysique. Les étapes de ce petit meurtre entre amis sont les suivantes. Tout d'abord, dit Gilson, la théologie produit de la métaphysique, en plus que d'en intégrer, elle en fait, elle en produit. Par exemple, le philosophe et la théologie n'a donc pas simplement contenu de la métaphysique, elle a nécessairement dû en produire. Ensuite, la philosophie se sépare de la théologie. Mais tout semble bien se terminer, comme on l'a dit. Ce travail aboutit toujours, car ce que l'on y constitue, d'abord en forme de doctrine philosophique, est en réalité une partie détachée de quelques théologies où la première opération s'est effectuée à la lumière de la foi. Quand le moment vient pour la théologie de mettre à profit les conclusions d'une philosophie de ce genre, elle ne fait que recouvrer son propre bien. On a fait semblant de les séparer, mais tout était réglé d'avance. Troisièmement, de ce fait, cette stratégie est à la fois peu crédible et pourtant prescriptive pour les autres. Citation, les philosophies professées par nos néo-scolastiques, qui vont chaque jour à la messe, et souvent même la disent, sont naturellement elles aussi des philosophies chrétiennes, seulement, soucieux de modernité, ils aiment dire qu'elles n'en sont pas. Ces chrétiens se flattent que leur philosophie n'a aucun rapport avec le christianisme. Le fait n'a pas grande importance, car personne ne les croit, mais eux-mêmes s'estiment autorisés par là à exiger de philosophes non chrétiens qu'ils obtiennent de la raison naturelle laissée à ses seules ressources des philosophies aussi parfaitement accordées que les leurs aux demandes de la foi. Peut-être pense-t-il au reproche fait à Bergson. Selon Gilson, au contraire, et par exemple, la théologie dite des préambules de la foi n'est pas une sorte de péristyle philosophique. Tout ce que la théologie contient de spéculations philosophiques se trouve comme intégré à la théologie au service de laquelle le théologien l'engage. Elle ne peut servir qu'à condition d'être authentiquement philosophie, mais la servante est de la famille, elle fait partie de la maison. En revanche, la scolastique qui se veut achrétienne dégénère en un formalisme abstrait et elle est ennuyeuse. Son ennui gris n'est tolérable qu'à ceux qui le causent, car il n'est pas toujours ennuyeux d'ennuyer. À ce moment, pourtant, ajoute Gilson, la métaphysique est morte. D'où sa conclusion, rendez-nous la théologie telle qu'elle fut, lorsqu'elle réalisa la perfection de son essence, car la philosophie chrétienne se condamne à mort dès qu'elle s'en sépare. Gilson plaide par conséquent pour la maintenance d'un écosystème. C'est en restituant les philosophies scolastiques à leur lieu naturel, dit-il, que l'histoire les comprendra de mieux en mieux, telles qu'elles furent. Ou bien, là c'est dans le thomisme, la vraie question est de savoir si l'on peut, sans la détruire, arracher une pensée philosophique au milieu qui l'a vue naître et la faire vivre hors des conditions sans lesquelles elle n'eût jamais existé. Si la philosophie de saint Thomas s'est constituée comme révélable, c'est en respecter la nature que de l'exposer selon l'ordre du théologien. Quatrième petit point, une telle façon d'envisager la philosophie comme restituée à elle-même dès lors qu'elle reconnaît son lieu naturel a trois conséquences, selon moi. La première est que l'inflexion ou l'impulsion créatrice que la révélation fait subir ou confère à la philosophie, c'est le point principal du dispositif gilsonien. L'impulsion de la théologie. C'est ainsi, par exemple, et bien entendu, que l'ego sum de l'Exode est bien à sa place dans la somme de théologie avant toutes les preuves rationnelles et proprement philosophiques de l'existence de Dieu. La Bible précède les preuves philosophiques. C'est ainsi également, dit-il, que doivent se comprendre les voies de l'existence de Dieu. C'est le long développement du thomisme dans sa version actuelle. Elles ne sont compréhensibles qu'à la lumière de la théologie et pas seulement par rapport à la philosophie. Évidemment, cet ordre-là, ce point principal, est peut-être le plus mis en question depuis Gilson, et pas seulement pour le cas emblématique de sa lecture de l'Exode. La deuxième conséquence est le double refus gilsonien d'extraire la philosophie thomasienne de sa théologie, puis, l'ayant étudier pour elle-même, chimiquement en quelque sorte, de reconstruire cette philosophie selon son ordre propre et de la réinjecter par la suite. Outre le fait que Thomas ne l'a pas fait lui-même, c'est dénaturer sa philosophie que de procéder à une telle extraction, et c'est faire intrusion dans sa pensée que de prétendre la reconstruire. De surcroît, la philosophie qui serait ainsi extraite ne serait qu'une sorte, dit-il, de doublet rationnel de la révélation chrétienne, comme le cas de la future théologie naturelle qui n'est qu'un doublon de la théologie du Dieu unique. Elle ne serait de surcroît encore qu'un philosophisme de type aristotélicien, auquel, dit Gilson, trop longtemps, Thomas philosophe a été réduit. Ne reste en guise de philosophie de saint Thomas qu'une sorte d'Aristote amélioré. mais c'est une réduction, dit-il, notamment sous l'influence de Cajetan. Celui-ci a tout fait, selon Gilson, pour, citation, « ramener saint Thomas dans les limites d'Aristote ». Avec des pointes comme celles-ci, qui sont maintenant bien connues, le principal obstacle à la diffusion du thomisme de saint Thomas, même à l'intérieur de l'ordre dominicain, fut l'influence d'Aristote. Au contraire, dit Gilson, Thomas fait partout craquer les cadres de l'aristotélisme d'Aristote. La troisième conséquence est de considérer la philosophie bien plutôt à travers le prisme de la théologie, avec cette autre expression compactée d'une, là aussi il va falloir mettre des traits d'union entre tous les mots, d'une nature aristotélicienne en état de grâce. D'une nature aristotélicienne en état de grâce. Ou encore, autre version, d'une raison naturelle mise en état de grâce. Là, il n'y a pas de trait d'union. Ou d'une nature voulue par Dieu en vue de la grâce. Bon, il y a plusieurs versions, mais on voit l'idée. Du coup, il revient souvent à cette espèce de qualification. De la sorte, Aristote est assumé, assompté, plutôt que restitué à son naturel. Il semble donc, je prends un peu de recul, y avoir une double acception de la philosophie, ou du moins un jeu entre deux niveaux de rationalité philosophique. La philosophie des philosophes, c'est-à-dire plutôt des anciens, des vrais païens, mais aussi des arabes. Lorsque saint Thomas parle des philosophes, par exemple, dans le commentaire du De Trinitate de Boèce, je m'en suis aperçu un peu par hasard, c'est vraiment les philosophes d'avant, il n'y en a plus, d'une certaine manière. Avicenne et Averroès sont à mettre entre parenthèses quand même. Donc la philosophie des philosophes, purement rationnelle, évidemment, et aussi la philosophie du révélable, donc la philosophie post-chrétienne, non moins rationnelle, mais intégrée et plus large et plus inclusive que la précédente, par hypothèse. Par exemple, dans le thomisme, ce corps de doctrine philosophique vrai que la pensée humaine posséderait rarement intact et complet grâce aux seules ressources de la raison, elle, la pensée humaine, le construit aisément, quoique par une méthode purement rationnelle, s'il lui est déjà présenté par la foi. Ce que le philosophe, simplement philosophe, ne parviendrait presque jamais à faire, le philosophe éclairé par la foi y parvient aisément. Un tel dédoublement de l'exercice rationnel de la raison a donc davantage de raison que la philosophie, sans qu'il soit encore question de théologie. Mais cela permet notamment, à mon sens, d'expliquer la démarche de la Somme contre les gentils, où il s'agit d'un travail de la raison pour éclairer la vérité de la foi catholique, selon saint Thomas. Et j'aime beaucoup cette phrase que j'ai trouvée dans Livre 2, chapitre 4, paragraphe 4. « À l'occasion, la sagesse divine procède à partir des principes de la philosophie humaine. » À l'occasion, quand elle le veut, la sagesse divine, le docteur chrétien, procède à partir des principes de la philosophie humaine. Il refait le travail du philosophe, mais c'est lui qui le fait. Et c'est l'acteur qui compte presque autant que ce qu'il dit. Conclusion. Trois points. Premièrement, le révélable, selon Gilson, quoi qu'il en soit de ses lectures successives du texte de la Somme, traduit en d'autres termes que l'expression philosophie chrétienne, le principe et le territoire d'une philosophie, véritablement philosophique, qui est à la fois intégrée en théologie, non séparée d'elle, et plus étendue que la seule philosophie des philosophes. Le modèle gilsonien se présente donc avec une sorte de structuration chalcédonienne, union sans confusion de la révélation et de la raison, de la nature et du surnaturel, comme l'écrit le père de Lubac à Gilson, et Gilson lui-même, d'ailleurs, ailleurs, reprend la moitié de cette allusion en parlant d'une collaboration sans confusion possible. Donc là, il y a un petit clin d'œil. Le révélable, c'est donc la raison plus rationnelle que la philosophie, en extension et aussi en profondeur. Deuxième point, toutefois, du temps même de Gilson, la contestation fut vigoureuse de cette thèse. Par exemple, celle de Steinbergen, au nom d'une autonomie plus franche de la philosophie. Alors, le père Henri de Lubac, dans la correspondance Gilson de Lubac, prête à Steinbergen une expression « l'ère gilsonienne est close ». Bon, j'ai fermé la tombe, quoi. Mais Steinbergen, lecteur de cette correspondance, en conteste la paternité. Effectivement, toutes les références de Lubac qu'il donne sont fausses. Donc, Steinbergen, qui est un caractère aussi, hein, au moins autant que Gilson, aurait pu dire cela. Apparemment, non. Reste que la critique loyale et pertinace de von Steinbergen en faveur de ce que Gilson appelait la philosophie séparée a pris désormais d'autres voies, peut-être plus distantes encore, affranchies de sa double incurvation gilsonienne, théologique et thomiste, pour ne pas dire aussi catholique. À cet égard, peut-être peut-on parler d'une double sécularisation post-gilsonienne de la philosophie médiévale. Première sécularisation, une philosophie séparée, préférée au révélable, mais une philosophie séparée, déclarée compatible avec la foi. En gros, la métaphysique de Suarez à la néoscolastique du XXe siècle. Celle contre laquelle Gilson s'est battu, peut-être de manière, quelqu'un le fait remarquer, de manière un peu unilatérale, alors même que lui, professeur en Sorbonne, savait la position tout autre de l'université laïque. Lorsqu'il dit à la Sorbonne, et même aux hautes études, j'ai jamais quasiment pu enseigner saint Thomas. Bon, mais là, il est braqué contre quelque chose de très précis. Et seconde sécularisation, une philosophie médiévale hors du cadre métaphysique lui-même, ou bien à tout le moins hors de tout accord de principe ou de fin avec la foi. La question pourrait être alors de savoir si ce redoublement manifeste une sortie du gilsonisme par échelon, ou bien aussi l'entrée d'éléments extérieurs. Alors, face à cette sécularisation ou séparation, redoublée ou triplée d'ailleurs, Gilson, en définitive, a-t-il échoué ? Il existe un tableau anglais du milieu du XIXe siècle qui montre Wellington âgé, 30 ans après Waterloo, en méditation devant un buste de Napoléon comme en un dernier hommage du vainqueur. Nul doute qu'un personnage comme von Steinbergen ne se vit dans l'uniforme rouge de Wellington face au buste de Gilson. Mais son œuvre, hérissée contre son aîné et rival, l'a-t-elle emportée ? Celle d'un des premiers représentants de la philosophie séparée. Alors, en un sens, oui, si l'on considère l'évolution de l'histoire de la philosophie médiévale. La philosophie, de plus en plus séparée, s'éloigne du révélable. En un autre sens, même l'opposition à une grande pensée achève de la faire grandir, ce pourquoi Gilson est célébré. Comme pour Wellington face au vaincu de Waterloo, ce n'est pas à celui qui l'a emporté qu'on pense le plus, c'est à l'autre. Je vous remercie.